Les séminaires du Collège de France.
Conclure le cours de cette année par ce séminaire qui va être parfaitement adapté, parce qu'il va, Frédéric Forge de Grenoble, il va nous parler de travaux déjà réalisés, mais aussi en cours, pour essayer de comprendre le spectre de résonance de flots. Alors c'est ça, c'est des flots géodésiques anosophes, donc on va dire en courbure négative variable. Et le but des travaux, c'est vraiment d'essayer de comprendre la structure en bande du spectre, même en courbure variable. Merci. Donc on peut...
Bien, bonjour à tout le monde. Et merci Nalini pour l'invitation. Donc c'est un plaisir de faire cet exposé ici. Donc le titre de l'exposé, c'est décrire le flot géodésique anosophe, par exemple le flot géodésique sur des variétés riemanniennes à courbure négative, lisse, compacte, sans bord, et de montrer comment naturellement apparaît l'équation d'onde sur ces variétés. Et pour ça, on va utiliser, comme Nalini l'a expliqué, une description du spectre du champ de vecteur du flot géodésique. Alors, c'est un travail réalisé avec Masato Tsuji. L'essentiel du travail est présenté dans ce papier qui est sur Archive. Mais pour présenter les choses de façon simple, alors ce travail a été fait dans un cas plus général qu'on appelle les flots de contact anosophes. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un cas particulier intéressant, c'est les flots géodésiques, et où les manifestations des résultats sont beaucoup plus simples à présenter, moins techniques, etc. Donc, bien que ce soit un travail en progrès, pas encore, les conclusions ne sont pas encore écrites sur Archive, mais je me permets d'en parler. Alors, je commence par rappeler la définition et expliquer ce qu'est le flot géodésique. Alors, considérer N, une variété riemannienne avec une métrique G. Par exemple, sur la figure, c'est une surface dessinée en vert, de dimension 2. Eh bien, on considère l'espace cotangent de cette variété, T étoile de N, et dessus, naturellement, il y a des trajectoires qu'on appelle le flot géodésique. C'est un flot hamiltonien généré par un champ de vecteurs, donc ici qu'on va appeler X, et défini par ces équations de Hamilton. Alors, oméga, c'est la forme symplectique naturelle sur l'espace cotangent, et H, c'est une fonction de Hamilton, hamiltonien, ou en physique on appelle ça l'énergie, qui est tout simplement le vecteur cotangent P dans une fibre au-dessus d'un point Q de l'espace. Et on mesure, on prend la norme de ce vecteur cotangent mesuré par la métrique G au point Q de base. Donc c'est ça la fonction de Hamilton, mais si vous n'êtes pas familier avec cette formulation de géométrie différentielle, tout simplement en utilisant des coordonnées locales sur la variété, par exemple Q, ce qu'on appelle la position en coordonnées locales, appartient à R d plus 1, donc pour la surface d plus 1 égale 2, eh bien vous avez dans les fibres l'impulsion ou le vecteur cotangent appartient aussi à RD plus 1, et l'expression de ce champ de vecteurs se sont données par les équations de Hamilton en coordonnées locales. Une propriété du flot géodésique et plus généralement des équations de Hamilton, c'est qu'elles conservent l'énergie. Donc ici, ça va conserver la sous-variété des vecteurs cotangents de norme 1. Donc ce qu'on va appeler le fibré cotangent unitaire. Donc par exemple, pour cette surface de dimension 2, le fibré cotangent unitaire est de dimension 3. C'est une variété de dimension 3 compacte. Et intuitivement, le flot géodésique, en physique, c'est le mouvement d'une particule libre dans un espace courbe. Mais encore plus intuitif, c'est aussi sur une surface, c'est la trajectoire que suit un ruban de scotch. Par exemple, sur la table, quand vous étalez un ruban de scotch, il va faire une ligne droite. Et sur une surface courbe, partant d'un point donné, d'une direction donnée, le scotch va suivre une géodésique. Alors, ce qui est intéressant à voir, qu'on voit bien sur cette surface courbe, ici, il y a une zone qu'on dit à courbure négative, parce que les rayons de courbure sont dans des directions différentes. et en dessous une zone de courbure positive, parce que les rayons de courbure sont dans des directions similaires. Et bien plus généralement, alors ce qu'on voit, c'est que dans la zone de courbure négative, en partant d'un même point avec des directions un peu voisines, les rubans de scotch, donc les géodésiques, s'écartent exponentiellement vite. Et c'est plus généralement une propriété démontrée par Anosov. Dans une variété riemannienne de courbure sectionnelle strictement négative, eh bien, en chaque point de l'espace cotangent unitaire, donc de cette variété qu'on va appeler M dans la suite, et en chaque point, l'espace tangent se décompose en la direction du champ de vecteur, qui est de dimension 1, et transversalement deux directions, qu'on appelle direction instable et direction stable. Dans la direction stable, les trajectoires se rapprochent dans le futur, hein, donc la différentielle est contractante, et dans la direction instable, les trajectoires s'éloignent, la différentielle est dilatante. Donc c'est en physique ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, et qui fait que chaque trajectoire, finalement, est unique, a un comportement unique, parce qu'un point voisin va soit s'en écarter dans le futur ou dans le passé. Donc chaque histoire est unique. Et c'est ce qui fait que, partant d'un point donné, lorsqu'on observe expérimentalement une trajectoire, on a l'impression qu'elle est imprévisible. Alors justement, commençons par se familiariser avec le comportement du flot géodésique, donc par quelques observations, et après je donnerai des résultats. Alors, voici, c'est l'image de ce cotangent unitaire, la variété M, où se passe le flot géodésique. Alors le champ de vecteur, c'est ici X, et le flot géodésique, ce sont ces trajectoires. Transversalement, il y a des directions instables et des directions stables. Alors le champ de vecteur, en géométrie différentielle, on le voit comme un opérateur différentiel d'ordre 1, tout simplement parce que, appliqué à des fonctions, c'est le générateur infinitésimale du transport des fonctions. Hein, en fait, ce champ de vecteur, vu comme opérateur différentiel, lorsqu'on prend exponentielle tx, c'est tout simplement une fonction donnée composée par le flot au temps t. Donc sur cette image, par exemple, prenons une fonction donnée u, j'ai représenté en gris ici le support de cette fonction, et lorsqu'on le compose par le flot, c'est ce qu'on appelle le tirer en arrière par le flot. Le support de U indice T, de U rond phi T, est représenté ici en gris. Alors, le fait de le tirer en arrière, dans la direction instable qui est rouge, en arrière, ça contracte. Donc, ce support va être extrêmement fin. Dans la direction stable, dans le passé, le support est étiré. Et dans la direction du flot qui préserve les distances, le support ne change pas. Et donc, le support, disons, de cette fonction U rond phi T ressemble à ça, à une fine lame, d'accord, qui est étirée dans la direction stable et qui devient exponentiellement fine. Et si vous continuez à regarder U rond phi T pour des temps très grands, ça va être tiré en arrière, mais comme la variété globale est compacte, forcément cette feuille va se replier. Et pour des temps très longs, ça va ressembler comme ça à un multifeuille. Ok ? Et qui va avoir une structure de plus en plus fine avec un taux exponentiel. Mais bien sûr, ça va devenir des distributions, en fait, mais qui seront toujours lisses dans la direction stable et lisses dans la direction du flot. Il y aura simplement une structure très compliquée dans les directions transverses. Et on va s'intéresser, enfin en système dynamique, on s'intéresse justement au comportement en temps long du flot, donc à l'apparition de telles structures. C'est simplement la fonction qui s'est étirée, et je vais montrer une vidéo où on voit toute cette complexité qui apparaît. Alors une petite remarque, c'est que si vous considérez l'opérateur dual du tiré en arrière, c'est un poussé en avant, c'est ce qu'habituellement on appelle l'opérateur de transfert de Ruel. Donc il agit sur les mesures et il préserve les mesures positives de intégrale 1, donc il préserve les mesures de probabilité. Et en particulier, agissant sur une mesure de Dirac au point M, ça donne la mesure de Dirac au point phi t de M. Okay, donc ça décrit tout simplement la dynamique des particules. Mais cette description fonctionnelle est intéressante parce qu'elle permet de décrire la dynamique des points, des particules, mais plus généralement de n'importe quelle distribution. Alors, je vous propose maintenant de regarder quelques vidéos pour voir des comportements et poser les questions qui vont être le sujet de cet exposé. Alors, pour ça, on va considérer une surface, donc une variété de dimension 2, à courbure constante, hein, juste pour illustrer les choses. Alors, ici, représenté le grand cercle noir qui est tronqué, là, c'est le disque de Poincaré. Et on a pris un domaine fondamental qui est bordé par ces arcs rouges. On appelle ça la surface de Bolza, c'est une surface symétrique. Et les lignes noires sont les trajectoires géodésiques. Donc en fait, il faut penser que la courbure est négative, et c'est un peu comme sur ce vase. Vous voyez, vu d'en haut, à cause de la représentation, les géodésiques sont déviées. En réalité, ce sont des trajectoires qui essaient d'avancer en ligne droite. Et dans cette représentation qu'on appelle le disque de Poincaré, eh bien, les géodésiques sont justement des arcs de cercle qui sont orthogonaux, perpendiculaires au bord du disque de Poincaré. Mais la convention, c'est que lorsqu'on va sortir de cette zone rouge, la trajectoire va réapparaître de l'autre côté. Donc ce sont des conditions, des identifications qui font que c'est une surface compacte de genre 2 sans bord. Alors, première petite vidéo. Voilà, donc vous voyez la particule qui est là, elle réapparaît, d'accord, sur les côtés opposés, etc. Et donc ça, c'est une seule trajectoire, et vous voyez que bon, on n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer, hein, à cause de la sensibilité aux conditions initiales. Et dans les années 70, eh bien, les mathématiciens Ruelle, Bowen et d'autres ont suggéré d'abandonner cette description particulière et de regarder le flot agissant sur les fonctions. Peut-être qu'on pourrait prédire les choses un peu mieux. Alors, on va faire agir le flot sur les fonctions, et pour ça, on va utiliser un code de couleur, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, la trajectoire a lieu dans le cotangent unitaire qui est de dimension 3. Donc, en chaque point, la direction va être représentée par un code de couleur. Ce code de couleur, d'accord ? Alors, voici une petite illustration. Donc, on part de ce point, donc le bleu veut dire qu'on part dans cette direction, et là, on a mis beaucoup de particules avec une petite dispersion, hein, un peu comme si on mettait une fonction. Et on la laisse évoluer, donc elle réapparaît de l'autre côté, vous voyez, et ensuite là-haut, et ensuite ici. Donc on la laisse se propager, et on voit le nuage se disperser. Comme ça, et vous voyez, très rapidement, voilà, il remplit tout, ok ? Alors voici, c'est pour développer l'intuition que je présente ça. Voilà une autre vidéo. Donc là, c'est, on a mis 1 million ou 1 milliard de particules, vous voyez, qui part ici. Donc ça apparaît de l'autre côté, ici. Voilà. Et donc il faut imaginer que c'est une projection de ce qui se passe dans le cotangent unitaire. Donc ce nuage s'étire sur ce qu'on appelle la feuille instable. Et ça, c'est une projection de la feuille instable, qui est de dimension 1. D'accord ? Alors peut-être j'avance un peu plus vite. Voilà, on voit c'est une projection de ce qu'on appelle la variété eurocyclique instable. Et les couleurs, ce sont les directions. Et rapidement, on voit que cette projection commence à remplir tout le domaine fondamental. Vous voyez, donc je passe. On voit encore des arcs de cercle. Mais rapidement, au bout d'un moment, les arcs de cercle disparaissent et en chaque point, toutes les couleurs apparaissent. Vous voyez ? Et là, c'est ce qu'on appelle en système dynamique l'état d'équilibre, la mesure SRB. Voilà. Donc après, ça reste, cette figure va rester. Alors, les questions qui vont nous intéresser, ce n'est pas de démontrer cet état d'équilibre, je vais rappeler que c'est connu, mais c'est plutôt les fluctuations qu'on voit. Vous voyez qu'il y a des petites fluctuations et on voudrait connaître, une fois qu'on enlève cette constante, qu'est-ce qu'il reste ? Donc c'est quelque chose qui tend vers zéro, mais qui oscille, et on voudrait vraiment décrire ça. Et dernière vidéo que je veux montrer, parce qu'elle va être importante pour les explications qui vont suivre, c'est que, alors déjà, remarquez que la surface de Bolza, c'était une surface très symétrique, hein, qui se répétait 8 fois. Donc là, j'ai pris qu'une petite portion. Donc quand vous sortez vers le haut, c'est comme se refléter sur le bord. Hein, donc c'est ce qu'on appelle ici le billard de Bolza. Et au lieu de faire partir le nuage dans une direction, on le fait partir dans toutes les directions. Donc c'est un cercle. Voilà. Que fait ce cercle ? Bon, vous ne serez pas étonné de voir qu'il s'équidistribue lui aussi. Donc là, je fais avancer un peu plus vite. Voilà. Donc. Ok. Voilà. Donc, avec toutes ces observations, eh bien, le fait qu'on obtienne comme ça cette distribution uniforme sur le cotangent unitaire s'exprime par cette propriété qu'on appelle la propriété de mélange exponentiel. Donc étant donné n'importe quelle fonction initiale, donc la répartition de particules, lorsqu'on la fait évoluer par le flot, donc lorsqu'on la compose par phi t, d'accord, rappelez-vous, ça donnait cette structure très fine, et là ce qu'on fait c'est qu'on la teste contre une fonction test c infini. Donc le fait de tester, ça, on ignore les structures, la structure très fine. Eh bien, et c'est ce qu'on voit avec nos yeux, parce que nos yeux, d'accord, c'est comme des détecteurs, des observables lisses. Eh bien, ce qu'on voit, c'est quelque chose de constant, et en effet, on démontre que cette quantité qu'on appelle fonction de corrélation, temps, pour les temps infinis, vu de l'observable f ou de la fonction test, c'est comme si on voyait une fonction constante, fois une constante, qui est la moyenne spatiale de u. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle propriété de mélange, et ça converge exponentiellement vite, avec un taux exponentiel moins t sur 2 pour la surface de Bolza. Alors la question qui nous intéresse, c'est pas l'équilibre, mais ce qu'il y a dans ce reste. Donc qu'y a-t-il dans ce reste en exponentiel moins t sur 2? Peut-on décrire les fluctuations que l'on voit autour de l'équilibre? Alors voilà, donc une petite remarque un peu poétique. On pourrait se dire, mais c'est quelque chose d'exponentiellement petit, il faut le négliger. Mais c'est important de ne pas toujours négliger les choses. Par exemple, quand vous êtes le terme de l'équilibre, c'est une constante, et on a affaire à un espace fonctionnel de dimension infinie. Donc l'analogie que j'aime bien, c'est penser que vous êtes sur une barque au milieu de l'océan. Okay, peu importe que l'océan fasse 4 km de profondeur ou 8 km de profondeur. Ce qui va être important pour vous, c'est le mouvement, donc les vagues, même si elles sont toutes petites comparées à l'océan. Oui. Donc les fluctuations en physique sont toujours considérées comme importantes. Voilà, alors je voudrais maintenant décrire un résultat concernant ces fluctuations. Et justement, pour le flot géodésique, alors voici la présentation. Donc on part d'une variété riemannienne, fermée, lisse, et on va appeler pi, donc voici la variété riemannienne en vert, d'accord ? Et voici le cotangent unitaire, où a lieu le flot géodésique. Et on appelle pi la projection donc des fibres sur la variété en bas. Alors, une première opération, c'est que partant d'une fonction en bas, qu'on va appeler U, sur la variété, on va la tirer en arrière par la projection. D'accord ? Donc U rond pi. Ça fait une fonction sur M. Par exemple, ça veut dire que les valeurs en ce point, la valeur en ce point sera répétée sur toute la fibre. Ensuite, on a le flot qui agit là-haut et on va faire le tirer en arrière de la fonction relevée par le flot. Autrement dit, les valeurs sur toutes ces fibres violettes vont être reproduites sur la fibre ici en bleu. Vous voyez ? On fait le tir en arrière. Donc la valeur ici va être envoyée ici, etc. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on considère cet opérateur tiré en arrière, mais on regarde son adjoint. Donc l'adjoint, il va transformer les fonctions en haut vers les fonctions en bas, et on peut facilement vérifier que c'est l'adjoint L2, que ça correspond à moyenner la fonction sur les fibres, pour réobtenir une fonction en bas. Autrement dit, lorsqu'on compose ces trois opérations, on part d'une fonction en bas, on la relève en haut, on fait le tirer en arrière, donc par exemple, et ensuite on moyenne sur les fibres. Et ça a comme résultat que la valeur résultante en ce point central Q, c'est la moyenne de la fonction initiale sur le cercle géodésique de rayon T. Donc c'est ce qu'on appelle les moyennes sphériques. Hein, c'est considéré depuis plus d'un siècle. Il y a une page Wikipédia qui parle de ça. Alors, c'est un opérateur qui agit sur l'espace des fonctions sur la variété riemannienne. Hein, c'est une famille d'opérateurs dépendant de T. Ce n'est pas un groupe, vous voyez, à cause de cette moyenne. Et la question qui va nous intéresser, c'est de décrire cet opérateur moyenne sphérique pour des temps très longs. Alors, la première chose qu'on peut observer, c'est que grâce à la propriété de mélange précédente, on savait que exponentielle Tx converge au sens faible vers un projecteur de rang 1, et qui est la projection sur les constantes. Donc on ne sera pas étonné d'observer que cet opérateur Lt converge pour les temps longs vers la projection sur les constantes, avec un taux justement exponentiel moins t sur 2 en norme L2. Alors ça a été précisément énoncé par Marina Ratner en 87. Et une autre question, c'est qu'y a-t-il dans ce reste ? Alors, ce qu'il y a dans ce reste, je vous propose de le montrer dans une vidéo et après de l'énoncer dans un théorème. Alors, tout d'abord, prenons une fonction non nulle. Alors, si on prend une fonction de moyenne non nulle, hein, d'après ce reste, ça va converger vers une constante. Vous voyez, vous prenez une fonction U sur la surface, par exemple, et en chaque point, vous faites la moyenne sphérique sur un cercle de rayon T, mais le rayon est de plus en plus grand. Comme le cercle CQ distribue, ça va donner la moyenne spatiale de la fonction, en chaque point. Donc, une constante. D'accord ? Donc, juste pour... voici la vidéo. Donc, à l'instant 0, on a pris une fonction, vous voyez, qui vaut 0 partout et qui est positive dans cette zone. Okay ? Et en chaque point... on moyenne la fonction sur un cercle de rayon T. Or, les cercles vont devenir de plus en plus denses. Et ça a comme résultat que la fonction... Alors, ma vidéo est peut-être pas très bien faite, mais la fonction, vous voyez, il y a des fluctuations au début, puis elle devient à peu près constante. Bon. Je pourrais améliorer la vidéo. OK. Alors maintenant, je vous montre... c'est plus intéressant, une fonction initiale de moyenne nulle. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une fonction initiale de moyenne nulle et on va la moyenner sur des cercles. D'accord ? Alors on a dit que ça tendait vers 0 exponentiellement vite, comme exponentielle moins t sur 2. Donc ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on multiplie par exponentielle t sur 2 pour continuer à voir les oscillations. Alors initialement, c'est une fonction qui vaut 0 partout, et ici elle a des valeurs positives et négatives. Hein, c'est comme ce qu'on appelle un paquet d'ondes. Alors intuitivement, vous pouvez deviner ce qui va se passer au temps court. Parce que supposez que vous preniez un point ici, et que vous moyennez sur le cercle comme ça. Vous voyez ? Et bien en moyennant sur ce cercle, là ça va faire une moyenne de valeurs positives et négatives, ça va faire à peu près 0. Okay ? Donc en tous les points, on aura à peu près 0, sauf pour un point qui est devant. Parce qu'un point qui est devant, le cercle, il va arriver comme ça, et il va se trouver dans une zone soit plus, soit moins. Okay ? Et en dessous aussi. Donc on peut deviner que pour les temps courts, ce paquet d'ondes va partir vers le haut et vers le bas, en deux valeurs. Okay ? Donc voici ce qui se passe. Donc c'est un peu ce qu'on voit. Et puis il se reflète sur les bords. Alors là, n'oubliez pas, normalement ça tend vers 0 et on multiplie sans arrêt par exponentielle t sur 2. Et on voit comme des ondes à la surface d'un lac. Alors je vais un peu plus vite. Ça se reflète, ça interfère, vous voyez. Et pour les temps plus longs, ça fait des figures, si vous êtes familier avec les figures de chaos quantique ou chaos ondulatoire, ça ressemble vraiment aux ondes qu'on voit en chaos ondulatoire. Résultat de multiples interférences. Voilà, alors je reviens au slide. Et voilà, donc un premier théorème. Dans un cas particulier de surface à courbure constante. comme une surface hyperbolique. Alors, en théorie des groupes, une telle surface est obtenue en prenant le groupe SL2R ou PSL2R qu'on quotiente à gauche par un sous-groupe discret co-compact et à droite par le sous-groupe SO2 compact. Imaginez la surface de Bolzar. Eh bien, le théorème, rappelez-vous, ça c'est l'opérateur de moyenne sphérique, il dit que pour les temps longs, dans l'espace L2, eh bien, cet opérateur converge vers un opérateur de rang fini. Donc, par exemple, c'est la projection sur les constantes. Éventuellement, il y a un nombre fini d'autres termes qui correspondront aux petites valeurs propres du Laplacien. Et ensuite, avec un préfacteur exponentiel moins t sur 2, il apparaît cet opérateur. Donc cet opérateur, c'est un opérateur fixé W, qui est un opérateur inversible, et il apparaît l'opérateur qu'on appelle propagation des ondes, exponentielle it racine carrée de Laplacien moins 1 quart, plus l'adjoint. Et ensuite, un terme qui décroît relativement exponentiellement vite. Donc le phénomène qui nous intéresse, c'est cette partie-là, vous voyez, qui est non triviale. Alors, peut-être juste je commente. Voilà, cet opérateur, on l'appelle opérateur propagation des ondes, vous voyez, pour la simple raison que si on le fait agir sur une fonction, ça donne une fonction qui dépend du temps, mais cette fonction qui dépend du temps, quand vous dérivez deux fois, ça va faire sortir moins cette racine au carré, donc moins le Laplacien appliqué à UT. C'est vraiment l'équation d'onde. Une autre remarque, c'est que, comme je l'ai dit, les opérateurs ici de rang fini dominent pour les temps longs, mais c'est de rang fini. Donc on se permet de ne pas s'y intéresser. Et la preuve de ce théorème...
Cet opérateur de rang fini, c'est ce qui correspondrait aux valeurs propres du Laplacien entre
0 et 1 quart.
Et 1 quart, c'est ça.
Exactement. Plus la représentation triviale, la valeur propre 0. Voilà, donc là, pour obtenir ce théorème, alors il faut utiliser la théorie des représentations, justement, les séries principales, séries complémentaires. Alors justement, j'ai vu dans les vidéos, Nalini a fait un exposé ici exactement de ça, et je pense qu'elle a obtenu ce théorème.
D'accord. Je sais pas.
En fait, on peut l'obtenir à partir de ce qu'elle a présenté.
Toi, tu le vois comme ça.
Une petite remarque, ce sera important pour la suite, c'est que cet opérateur qui dépend du temps, vous voyez, le moins 1/2 ici, on peut l'inclure dedans, donc ça nous fera que le générateur, c'est moins 1/2 identité plus i racine carrée du Laplacien moins 1 quart. Et sachant que le spectre du Laplacien est positif, d'accord, donc le spectre de racine carrée du Laplacien est positif, fois i, c'est sur l'axe imaginaire, et moins 1/2, ça le shift à gauche. Donc le spectre de cet opérateur se trouve sur cette demi-axe vertical. Et le reste qu'on a mis, qu'on n'a pas décrit ici, bon, on pourrait en dire plus, il décroît comme exponentielle moins 1/2, moins 1, donc moins 3/2. Voilà, c'est quelque chose qui est à gauche de cette ligne en pointillé.
Ça, c'est spécifiquement pour Bolzar ou il n'y a pas de petite valeur propre ?
Alors, ça, c'est pour toutes les surfaces hyperboliques. Quand vous changez de surface hyperbolique, il y a d'autres, un nombre fini de valeurs propres qui peuvent apparaître là sur l'axe réel.
Mais sinon, en fait, les petites valeurs propres, il les met dans RT, en fait.
Voilà. Et comme c'est un nombre fini, on les fait avaler par ce terme. OK ? Voilà. Alors, la question qui nous intéressait avec Masato Tsuji, c'était de voir si ce genre de phénomène était vraiment spécifique à la théorie des groupes, etc., si c'était algébrique ou si c'était géométrique et dynamique, si ça pouvait exister dans un cadre plus général. Et alors, voilà le résultat peut-être qu'on va présenter, qui est a priori un peu surprenant, c'est que c'est plus général, en effet. Il y a quelques variantes, mais en gros, c'est le même résultat. Donc, considérons maintenant un cas plus général, qui est une variété qu'on appelle anosophe. C'est une variété fermée, riemannienne, telle que le flot géodésique soit anosophe, sur le fibré cotangent unitaire. Donc je vous rappelle, ça veut dire qu'il y a la direction du flot et transversalement, c'est soit dilatant, soit contractant, uniformément. Et je vous rappelle qu'on s'intéresse à l'opérateur moyenne sphérique, hein, qui agit sur l'espace L2 des fonctions, sur N. Et ce n'est pas un groupe, c'est une famille d'opérateurs. Alors là, je suis désolé, j'introduis des paramètres importants, mais qui vont remplacer le -1,5 et le -3,5 de tout à l'heure. Hein, c'est pour préciser des estimés. Alors, je le dis rapidement. Pour chaque cas entier, eh bien, on introduit un fibré sur M, sur l'espace contingent unitaire, de la façon suivante. Rappelez-vous la direction stable, qui est un espace vectoriel. Et pour K donné, on regarde les polynômes homogènes sur cet espace vectoriel. De façon équivalente, on peut dire que c'est des tenseurs symétriques de degré K. C'est un espace vectoriel de dimension finie. Et donc ça forme un fibré sur M, hein, parce que E, S, c'est un fibré sur M, fibré vectoriel. Et on fait le produit tensoriel avec un fibré en droite, qui est tout simplement le fibré en droite déterminantal, hein, donc les formes volumes sur ES. -1,5, ça veut dire le dual des demi-formes. Alors, dans la preuve, on verra pourquoi c'est important. Et j'appelle FK ce fibré vectoriel sur M. Et comme c'est un fibré naturel, le flot géodésique, lui, agit bon, sur la variété M, mais il agit sur les tenseurs, etc. Donc, il agit sur les sections de ce fibré. Et j'appelle XFK le générateur, enfin, la dérivée, le générateur de transport de ces sections. Et on peut regarder, c'est un groupe qui fait évoluer les sections, et on peut regarder la norme de cet opérateur, la norme infinie, pour les temps positifs ou les temps négatifs. Eh bien, on définit ainsi, c'est des sortes de coefficients de Lyapunov, les coefficients gamma k plus ou moins. Hein, ça montre la croissance de la norme des sections dans les temps positifs ou négatifs. Alors, le fait que ES soit la direction stable, et je vous rappelle que dans le passé, ça étire, ces coefficients sont tous strictement négatifs. Et quand k grandit, ils deviennent de plus en plus, ils tendent vers moins l'infini. Et aussi, pour s'aider à se fixer les idées, dans le cas de la surface hyperbolique, gamma 0, c'était -1,5 et gamma 1, -3,5. Hein, c'était ce qui apparaissait sur la figure ici, -1,5 et -3,5. Eh bien, voici le théorème que je veux commenter dans cet exposé. Donc, c'est le travail qui est sur Archive, plus cette interprétation, disons le fait de faire les moyennes sphériques, ça c'est pas encore publié. Eh bien, on fait une hypothèse de pincement, c'est que le gamma 0- est strictement supérieur au gamma 1+. Donc le gamma 0-, c'est un nombre négatif qui est strictement supérieur à gamma 1+. Eh bien, pour les temps très grands, l'opérateur moyenne sphérique s'écrit comme un opérateur de rang fini, plus un opérateur W inversible fois exponentielle TA, donc ça c'est un groupe avec un générateur A, plus l'adjoint, plus quelque chose de négligeable. Ou ce générateur A qui nous intéresse, eh bien c'est à l'ordre principal, c'est I racine carrée du Laplacien, alors cette fois-ci le Laplacien de Hodge sur la variété riemannienne, plus quelque chose que je ne saurais bien décrire, mais qui est négligeable au sens où le racine carrée du Laplacien, vous voyez, c'est un à haute fréquence, disons, c'est un opérateur borné de HS dans HS moins 1, et le... c'est ça. Et ça, c'est... Voilà, c'est... Alors, je me suis trompé, en fait, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas -1,5, c'est HS moins 1 plus epsilon. Et voilà, donc ce générateur, il est comme racine carrée de Laplacien, mais bon, c'est pas tout à fait le Laplacien de Hodge. Et là, il y a des estimés sur le groupe engendré par cet opérateur, mais qui se traduisent, qui ont comme conséquence la figure suivante, c'est que le spectre du générateur, cette fois-ci, n'est plus sur une ligne, comme tout à l'heure, mais on sait qu'il est dans une bande qui est limitée en partie réelle par, à gauche par gamma 0- et à droite par gamma 0+, hein, définie par ces estimés-là. Et le spectre est aussi dans partie imaginaire de Z strictement positif.
Alors, excuse-moi, l'estime, donc, tu dis le A, c'est I racine de Laplacien plus un reste. L'estimation sur le reste, est-ce que c'est exactement la même que tu avais dans le cas hyperbolique ou c'est moins bien?
Non, elle est moins bonne. Alors, je ne sais plus ce que j'avais. Non, je crois qu'il y a une typo. Non, mais dans le cas hyperbolique, c'était, il n'y avait pas de reste. Hein, c'était vraiment racine carrée du laplacien moins un quart.
Ah oui, pardon. Oui, oui.
Il n'y avait pas de reste.
Oui.
Là, voilà.
On a bon, enfin, ça dépend si tu... Enfin,
qui est sous-principal.
Avec le 1 quart, ça dépend si...
Oui, ok, ouais. Donc là, il y a un reste sous-principal.
Mais il est moins bon que si on mettait juste le 1 quart.
Oui.
Si on a que le 1
Cette propriété, alors ça, c'est une propriété d'existence, mais en fait, ces opérateurs qui vérifient ça avec ce reste sont uniques. Il y a unicité de cette, dans cet énoncé. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, voilà, comme c'est unique, c'est un peu intrinsèque au problème. Hein, donc ça veut dire que sur une variété riemannienne anosophe, vous avez, alors il faut le trouver, mais un unique groupe exponentiel TA avec un unique générateur A qui n'est pas tout à fait iracine carrée du laplacien de Hodge, mais une sorte d'autre laplacien qui aura cette propriété unique.
Ben, est-ce qu'on peut obtenir la condition de pinching à partir de condition de pinching sur la courbure ?
Oui, mais en dégradant les estimés. On peut l'exprimer à partir de la courbure, mais on va dégrader les estimés.
Okay. Hmm.
Voilà, alors je voudrais commenter ce résultat. Donc là, c'est le même théorème que j'ai recopié. Alors, premier commentaire, c'est que là, on a fait des moyennes sphériques de fonctions. Hein? Donc, mais on pourrait plus généralement considérer des sections à valeur dans un fibré. Et en choisissant bien le fibré, justement, en choisissant le fibré, alors, qui est les demi-formes sur la direction stable, eh bien, les choses s'améliorent un peu. C'est qu'au lieu que le spectre soit dans une bande, comme ça, le spectre s'accumule sur l'axe imaginaire. La raison est simple. C'est que vous voyez, les estimés de gamma 0 plus, gamma 0 moins, là, c'était donné par ce fibré ici. Or, pour k égale 0, ça veut dire la première bande, bien, les polynômes homogènes de degré 0, c'est les constantes. Donc ça, c'est un fibré trivial de toute façon. Et ici, il reste ce fibré. Mais si on fait le produit tensoriel par le fibré dual, on va obtenir le fibré trivial.
Pardon ? L'opérateur A, on sait dire s'il est antiunitaire ou quelque chose ?
Alors, non. Dans ce cas-là, le spectre, on s'est juste montré qu'il s'accumule à haute fréquence sur l'axe imaginaire, mais on ne sait pas si c'est exactement déjà. Donc on pourrait penser que l'opérateur d'évolution ici est presque unitaire, en ce sens. Voilà, puis il y a un autre, bon, pas mal d'améliorations qu'on peut faire que dans ce contexte. Par exemple, tenir compte du spectre plus interne avec d'autres fibrés. Donc les choses peuvent être plus techniques aussi. Voilà, une remarque que moi je trouve importante, c'est que cet opérateur A, vous voyez, il est elliptique. Ça veut dire que les fonctions propres, ça a une conséquence que les fonctions propres, c'est des fonctions C infinies sur N. Et on verra dans la preuve, dans la construction de ce A, c'est que les valeurs propres en question, ce sont en fait ce qu'on appelle le spectre du Ruel. C'est en fait la première bande du spectre du Ruel. Hein, une façon de le dire, ce sont les pôles discrets de la résolvante de l'opérateur champ de vecteurs. Et là, beaucoup de... C'est Tsuji, là. J'ai oublié le T. Bon, il y a une contribution de plusieurs papiers et chercheurs sur ce sujet. Alors, c'est intéressant de voir qu'on a une manifestation du spectre du Ruel, ce qu'on appelle les résonances de Ruel, comme fonction C infinie dans L2, de façon intrinsèque.
Et justement, comme tu es en train de parler de régularité, le fibré par lequel tu dois tordre, là, pour faire ton petit, il est pas C infini.
Oui, alors là, bien sûr, là, j'ai un peu... exagéré. Ça, c'est une remarque. Okay. En réalité, pour le faire, il faut. Il y a, techniquement, si on veut avoir ce cas particulier où le spectre s'accumule sur l'axe imaginaire, il faut. Avec Tsuji, on considère plutôt un fibré sur la grassmannienne, etc. On doit faire une extension du problème.
Mais c'est important pourvu que les fibrés soient assez infinis ou c'est pas trop.
Si,
parce que
important.
Le fibré,
non,
le fastage stable et tout, il est pas assez infini.
Oui, c'est important. Donc là, mettons entre guillemets, en fait, il y a un autre fibré, mais c'est un peu compliqué, un fibré de spinner symplectique qui fait la même chose, qui est assez infini.
Ah.
Mais que là, je. Voilà.
D'accord.
Disons, mettons entre guillemets ça. Okay. Ça, c'est dans l'idée. Mais il y a une façon de le faire avec un fibré, c'est infini.
Ah bon.
Moi, j'aurais dû mettre des guillemets, voilà, sur. Voilà, donc une remarque de cette moyenne sphérique, un intérêt, c'est que le spectre discret de Ruelle a donc une existence intrinsèque et une manifestation dans l'espace L2, sans avoir eu besoin de parler d'espace anisotrope de Sobolev. Okay, alors que la théorie derrière, la preuve, nécessite ces espaces de distribution.
Qu'est-ce que c'est la définition de première bande du spectre
de... Alors j'en parlerai, ça apparaît dans la preuve. Okay, j'en parlerai juste après. C'est dans la preuve de ce théorème, on a besoin de ça. C'est le spectre de X, en fait. On s'intéresse au spectre de X. Voilà, une autre remarque, c'est que en utilisant ce qui s'appelle la formule des traces d'Atiyah-Bott, dont Nalini a parlé un petit peu, trace flat, eh bien, on peut observer avec des techniques de fonction zeta, alors dont ces personnes ont contribué, on peut observer que le spectre de ce générateur sont les zéros d'une fonction de fonctions holomorphes qui sont construites à partir des orbites fermées. Donc déterminé, c'est complètement déterminé à partir des orbites fermées. On appelle ça les fonctions zeta dynamiques. Bon, c'est pas très étonnant parce que tout ça est construit à partir du flou géodésique, en fait. Hein. Mais ça convainc que c'est unique, en quelque sorte. Alors là, c'est une liste de travaux reliés à ce résultat. Alors, en 2006, je m'étais intéressé à ce problème et le modèle le plus simple qu'on puisse imaginer pour se poser la question, c'est ce qu'on appelle le CatMap. C'est l'application hyperbolique, automorphisme symplectique sur le tore. Et on considère une extension de contact et on peut faire un peu les mêmes choses, s'intéresser au spectre de Ruelle et on voit apparaître déjà ce qui s'appelle le CatMap quantique. Là-dedans, dans cette dynamique. Ensuite, avec Masato Tsuji, on a plus généralement considéré le cas non linéaire. C'est donc des diffomorphismes symplectiques non linéaires anosophes, un peu quelconques, et observé un résultat similaire. Avec Dyatlov, Guillermou, on a considéré des flots géodésiques sur les variétés hyperboliques, donc avec une grosse symétrie. Il y a des travaux de Hilgert et Tobias Weisch aussi. Et plus récemment, des travaux sur les flots de contact anosophes. Voilà. Et d'autres travaux, alors pas dans le cadre hyperbolique, mais par l'équipe d'Ang, Léoto, Rivière, qui considèrent les moyennes sphériques et qui obtiennent des résultats un peu de cette saveur sur le spectre de moyennes sphériques, d'opérateurs moyennes sphériques. Voilà, je me permets maintenant de faire des remarques un peu générales que je trouve intéressantes en physique mathématique sur ce qu'on appelle la quantification, hein, le fait de relier la dynamique classique et la dynamique quantique. Et comment ce que je viens de présenter peut être relié à ces questions de quantification. Alors, je vous rappelle que de façon un peu générale et un peu grossière, peut-être un peu résumée, ce qu'on appelle la quantification, c'est une opération, hop, qui partant de une dynamique hamiltonienne, et donc d'une fonction de Hamilton, on obtient un opérateur, par exemple, partant de la composante Pj de l'impulsion du vecteur cotangent, on obtient moins i, la dérivée partielle par rapport à Qj. Et appliqué au flot géodésique, eh bien le hamiltonien, c'est la norme de P, or la norme de P, c'est racine carrée de la norme de P carré, d'accord ? Donc on va obtenir naturellement quelque chose qui ressemble à racine carrée du laplacien comme opérateur. Et ce générateur, on le met dans l'équation de Schrödinger et ça nous donne l'équation d'onde. Alors c'est un peu comme ça qu'on dit les choses en physique et mathématiques. Et c'est la source de toute une théorie qu'on appelle l'analyse semi-classique, avec la théorie de WKB, les théorèmes d'Egorov, etc., le théorème de propagation des singularités. Et on montre que lorsqu'on considère cette équation de Schrödinger dans la limite des petites longueurs d'onde, eh bien, la solution, la fonction u dt, son comportement se comprend assez bien à partir du comportement du flot hamiltonien, donc en l'occurrence des géodésiques. Et donc on a une sorte de, comme ça, d'émergence ou de limite étudiant l'équation d'onde à t fixé, mais pour lambda, la longueur d'onde tend vers 0, on voit apparaître le flow géodésique. C'est ce qu'on appelle les théorèmes d'analyse semi-classique. Et historiquement, tout ça s'est inspiré de la physique. Il y a très longtemps, donc c'est Hamilton, en 1834, a montré que l'optique géométrique, la dynamique des rayons, c'est la limite à petite longueur d'onde de l'optique ondulatoire. Et en effet, c'est pertinent parce que la longueur d'onde de la lumière, c'est de l'ordre du micromètre. Et dans les années 1920, on a découvert que la mécanique classique de Newton, qui était connue depuis plusieurs siècles, est en fait une limite à petite longueur d'onde, d'onde quantique, gouvernée par l'équation de Schrödinger. Voilà, donc on a cette limite. Donc là, oui, vous pouvez cliquer.
40, tu peux aller jusqu'à 40, tu as commencé.
Oui, d'accord. Bon, là, c'était une petite vidéo juste pour le plaisir des yeux, mais c'est très court. Bon, allez, je vous la montre. Donc, c'est juste une onde, disons, par l'équation d'onde. Donc, c'est une onde, un paquet d'ondes sur le billard de Sinaï. Donc, on voit en effet que cette onde semble suivre, comme une particule, une trajectoire géodésique, mais à cause de sa taille, elle se disperse. Donc pour les temps finis, on voit comme une particule, mais pour les temps longs, après, c'est une onde qui interfère. Donc ça, c'est l'équation d'onde qu'on résout. Mais on voit bien que son comportement est bien gouverné de façon sous-jacente par le flow géodésique. Voilà. Et le théorème précédent, okay, sur les moyennes sphériques, curieusement, concerne la direction opposée. Hein, on est parti du flow géodésique et on a montré que pour les temps longs, on obtenait l'équation d'onde. Donc, ça semble aller en sens contraire des résultats habituels. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est ça la question. Hein. Quelle est la signification dans ce cadre? Alors, c'est ça que je veux discuter. Alors, première chose à se rendre compte, qui est très importante, c'est que l'opération de quantification n'est pas unique. Pour plein d'opérateurs différents, ce qu'on appelle les opérateurs pseudo-différentiels, ils ont la même limite classique parce que c'est déterminé par ce qu'on appelle leur symbole principal. Et donc ces opérateurs, strictement, ont des spectres différents. Par exemple, quand on fait la quantification de Weyl, ça dépend du choix de système de coordonnées. Et même en quantification géométrique, qui est la tentative de faire la quantification de façon la plus intrinsèque possible, à un moment donné, on doit choisir ce qui s'appelle une polarisation, et là il y a un choix infini et donc l'opérateur va dépendre de ce choix. Donc la quantification n'est pas quelque chose d'unique et canonique. Hein, donc forcément la dynamique classique ne peut pas déterminer le spectre quantique parce qu'il y a plein d'opérateurs, une infinité pour une dynamique classique donnée. Or, on peut voir que l'opérateur A qui est émergé là dans la moyenne sphérique, c'est une quantification parmi d'autres. En fait, d'un certain point de vue, elle satisfait les axiomes de la quantification, comme les théorèmes d'Egorov, etc. C'est une quantification parmi d'autres, mais elle a une propriété spéciale, c'est qu'elle est déterminée par la dynamique classique. Voilà, elle a une formule, on peut, alors, ça on l'a détaillé avec Masato dans le cas de diffeomorphisme, il y a une formule de trace exacte, une formule de propagation exacte avec des restes arbitraires qui tendent vers zéro, vers exponentiellement en temps long, et ça, ça fait qu'elle est unique. Alors, voilà, donc ça c'est juste une suggestion, en fait, c'est que cette quantification, bon, ça peut être, le fait qu'elle soit unique, peut-être, on peut se demander à quoi ça sert, bon, peut-être ça pourrait servir à aider pour aborder des questions encore ouvertes de chaos quantique. On a la difficulté en chaos quantique, en fait, à étudier les choses lorsque le temps d'évolution est très long, au-delà du temps des Rennfest. Or, là, il se trouve que pour les temps longs, justement, cette quantification a la propriété qu'elle est de mieux en mieux décrite par le flow géodésique lui-même. Donc, ça, c'est spéculatif.
Il y a une dépendance en H, en effet, dans le grand O, là. Il ressemble à quoi?
Ouais, une dépendance en H, alors bon, je n'ai pas trop dit ce que c'était H à présent. Alors, c'est une dépendance en H, en effet, donc comme H puissance moins D. Ok. Mais quand vous fixez H et que vous faites T tend vers l'infini, ça tend vers 0. Hein, donc. Voilà, alors là je me permets, comme c'est un lieu un peu interdisciplinaire, de faire un commentaire sur le sens physique éventuel de ce résultat. Alors c'est complètement informel, je me permets de le faire. Bon alors, observons des similarités avec la physique. C'est que le résultat précédent a montré donc que l'évolution d'une fonction ou de loi de probabilité par cette dynamique du flow Anosov qui est chaotique mais déterministe fait apparaître la mesure d'équilibre qui est une constante, et si on la soustrait, on voit apparaître des petites fluctuations positives, négatives, qui sont gouvernées par l'équation d'onde, ce qu'en physique on appelle ça l'équation de Schrödinger pour une particule libre. Et donc, en quelque sorte, une dynamique quantique semble apparaître avec le temps. Or, en physique, depuis 1920, d'après les expériences, on voit que les phénomènes expérimentaux nous ont amené à un formalisme qu'on appelle la mécanique quantique, qui nous mène à décrire la matière comme des ondes, mais avec une interprétation probabiliste. Ces ondes, il faut prendre le module carré pour avoir une densité de probabilité lorsqu'on fait une observation. Bon, et jusqu'à présent, c'est très mystérieux ce formalisme pour les physiciens, enfin pour tout le monde. Et parfois, on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle déterministe sous-jacent, déterministe, bon, qui pourrait faire surgir, émerger ce formalisme quantique. Voilà, donc juste je me permets de mettre en avant peut-être cette similarité entre ces deux choses. Bon, c'est un peu une question que se posent les physiciens. Est-ce qu'il y aurait un modèle déterministe sous-jacent
à la mécanique quantique ? Mais c'est une question qu'on a le droit de poser, ou c'est, si on la pose, on s'écarte un peu du dogme officiel ? C'est une question autorisée pour les physiciens, ou on s'écarte un peu du dogme ?
C'est tout à fait autorisé, par exemple. Après, bien sûr, c'est un peu osé de prétendre se poser ce genre de questions, mais c'est pour ça que je le fais de façon très informelle.
C'était une question un peu interdite.
Interdite
parce que c'est pas dans le dogme, non ?
Non, il n'y a pas de dogme. Bah, par exemple, il y a un article dans Le Monde cette semaine d'un physicien anglais, Oppenheim, qui proposait des pistes comme ça, pour concilier la relativité générale et la mécanique quantique.
Non, mais donc c'est pas la même chose que les variables cachées, ce dont tu parles.
Alors, ça pourrait ressembler, mais dans le théorème entre guillemets de variables cachées, on suppose que c'est local. Alors bien sûr, il ne faudrait pas que ce modèle déterministe soit local. Mais là, j'ai proposé aucun modèle. C'est juste une analogie, mais ça, pour les gens rêveurs, ça peut suggérer de la méditation et puis de chercher un peu. Voilà. Ça peut être une motivation pour réfléchir.
J'avais l'impression qu'il y avait certaines questions qui n'étaient pas autorisées, qui étaient autorisées en maths, mais pas en physique.
Alors,
dans ce domaine précis.
Ouais, si de façon sérieuse on veut envisager ce genre de questions, il faut tenir compte de tous ces phénomènes, théorème de Bell, etc. Donc, il ne faut pas qu'un modèle déterministe soit local, par exemple. Voilà, alors maintenant, pour terminer, je veux parler de quelques éléments, des ingrédients de la preuve, du théorème. Alors, c'est basé donc sur l'article que j'ai dit, qui concerne les flots de contact Anosov, plus discuter les conséquences lorsqu'on fait la projection moyenne sphérique. Donc ça, c'est un travail pas encore publié. Et je vais décrire, il y a deux étapes dans la preuve. Première étape, c'est de la plus importante, en fait, qui est décrite dans ce papier, avec Masato Tsuji, c'est de considérer le spectre du champ de vecteur X et de montrer qu'il y a un spectre discret qu'on appelle spectre de Ruelle, et avec en plus une structure particulière. Le spectre est structuré en bande verticale dans le plan complexe. Et pour ça, ce spectre n'est pas dans l'espace L2 ordinaire. Il faut aller construire des espaces de Sobolev anisotropes. Justement, intuitivement, l'idée intuitive est assez simple. C'est que, rappelez-vous, cette image très importante au début. Voilà, cette image. Okay. Pour les temps longs, toute fonction en évoluant va ressembler à ça. Et donc, si on veut une fonction propre, du spec discret, ça veut dire qu'il y a des fonctions propres, okay, invariantes. Donc, toute chose invariante doit ressembler à ça, hein, parce qu'une chose lisse n'est pas invariante. Et donc...
Et si on applique le propagateur dans l'autre sens, on n'a pas une structure de...
Dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que le sens du temps est important. Si vous voulez étudier... Bon, ça, c'est typique pour l'équilibre. Hein, il y a l'étude pour le futur et l'étude pour le passé. Donc, le spectre va il y a le spectre du futur et le spectre du passé. On arrive à choisir une flèche du temps. Hein. Donc, en effet, pour le pullback, okay, il faut prendre des distributions qui sont lisses dans la direction du flow, E0, lisses dans la direction stable et accepter une grosse irrégularité transversale. Voilà, et c'est ces espaces qu'on appelle espaces de Sobolev anisotropes, parce que ils ont des régularités qui dépendent de la direction. Okay. Alors, pour le faire, on fait comme les espaces de Sobolev. Donc, je reviens. C'est-à-dire qu'on se place sur le cotangent avec la théorie des opérateurs pseudo-différentiels. Dans l'espace cotangent, on met une fonction poids, hein, qui va décroître dans certaines directions, croître dans l'autre pour accepter les irrégularités. Et on en fait un pseudo-diff et on définit comme ça l'espace de Sobolev à partir de l'espace L2. Donc c'est un espace adapté à la dynamique. Et dans ces espaces de Sobolev, eh bien, on voit apparaître le spectre discret. Alors peut-être la question qui a été posée, c'était... il y a le futur, le passé, etc. Et puis il y a l'espace L2. Et alors on peut faire tout ça de façon continue. Vous pouvez partir de l'espace L2, et dans l'espace L2, le spectre sera absolument continu sur l'axe imaginaire. Voilà. Donc c'est imaginer sur l'axe imaginaire du spectre absolument continu en marron. Et puis en mettant la fonction poids qui apparaît, okay, vous pourrez faire bouger le spectre essentiel, le spectre continu, vers la gauche du plan spectral. Et là, vous verrez apparaître du spectre discret intrinsèque en bougeant la fonction de poids. Et ce spectre intrinsèque, il est vraiment intrinsèque, il ne dépend pas de la fonction de poids que vous avez choisie. Et ça fait penser à un peu comme des acteurs, vous voyez, sur une pièce de théâtre, et on ouvre le rideau. Et puis, la fonction de poids, si on change les poids, justement, pour dévoiler les autres directions, et bien ce rideau, il part à droite, et là, on verra apparaître un autre spectre ici, le spectre du futur. Voilà, donc c'est ce qui est expliqué dans nos papiers.
Les régions, c'est indiqué en bande bornée, c'est en bande uniforme sur la zone, ou ça...
Alors voilà, alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est ce spectre, la propriété particulière de ce spectre. Alors il y a une valeur propre évidente, c'est la valeur propre 0. Okay, parce que c'est les fonctions constantes, et tout le reste n'est pas du tout évident, en fait, ce sont vraiment des distributions, ce n'est pas des fonctions lisses. Et, alors attendez, ouais, ce qui apparaît, c'est que à basse fréquence ici, on ne sait pas dire plus qu'il y a du spectre discret, mais par contre, pour haute fréquence, donc partie imaginaire de Z élevée, on peut montrer que ce spectre, éventuellement, il est dans des bandes, justement délimitées par les gamma plus k et gamma moins k qu'on a défini tout à l'heure. Et si jamais on a, à cause de pinching, l'hypothèse de pinching, si on a gamma 1 plus qui est strictement inférieur à gamma 0 moins, eh bien on peut montrer que non seulement il n'y a pas de spectre dans cette zone, mais que la résolvante est uniformément bornée. Alors ça, c'est très intéressant qu'elle soit uniformément bornée, parce que par une intégrale de contour, on pourra isoler un projecteur spectral borné sur la zone que j'ai dessinée en vert.
Est-ce que les états résonnants de la première bande ils sont tués par une dérive instable ou ce genre de...
Oui, il y a des choses comme ça. Alors, dans le papier, on n'a pas exact, mais on a à haute fréquence à peu près. Donc on a des opérateurs horocycliques, un peu comme en courbe constante. On observe ça. Donc pour, bien sûr, les techniques pour obtenir ça, c'est l'analyse microlocale avant tout. Et l'analyse microlocale, comme on travaille sur le cotangent, on utilise la structure géométrique du cotangent, et c'est la géométrie symplectique qui est vraiment importante. Et derrière, donc une fois qu'on fait cette analyse, On s'aperçoit qu'à haute fréquence, on peut travailler à petite échelle, qu'on peut approximer le flot géodésique par son linéarisé, donc par des applications linéaires symplectiques. Et on fait de l'algèbre linéaire symplectique. Et au cœur de ça, il y a ce qui s'appelle les spinners symplectiques, qu'on appelle aussi opérateurs métaplectiques. Voilà. Et rien que dans ce modèle algébrique linéaire, c'est très intéressant de voir l'émergence de la mécanique quantique. Donc, au total, on part de cette variété M, qui est déjà le cotangent unitaire de la variété riemannienne. On fait l'analyse microlocale sur le cotangent de M, mais ensuite, on linéarise, donc on travaille sur le tangent du cotangent unitaire de N. Okay. Et c'est vraiment là que les choses se passent. Et finalement, une fois qu'on y est arrivé, elles ne sont pas si compliquées. Bon, ça, c'est la première étape, qui est le gros du travail, qui est d'obtenir cette description du spectre en bande. Et la deuxième étape, c'est celle que j'ai présentée aujourd'hui, c'est d'essayer de considérer les moyennes sphériques, et de considérer l'opérateur moyenne sphérique où on a mis ces opérateurs à droite et à gauche pour déduire les asymptotiques de cette famille d'opérateurs. Alors pour faire ça, les moyennes sphériques, c'est les moyennes dans la fibre, c'est ce qu'on appelle la direction verticale, et on utilise de façon essentielle que la direction verticale est transverse uniformément aux directions stables et instables. Et ça a comme conséquence que comme ces distributions de Ruelle, toutes ces fonctions propres, ce sont des distributions qui sont très irrégulières dans la direction instable, mais quand en moyenne, ça va enlever l'irrégularité, ça va, ce qu'on appelle, tuer le front d'onde. Donc ça, c'est essentiel. Voilà. C'est là que je arrive à la conclusion. Et donc, j'ai vu juste un petit truc à montrer. Comme je l'ai dit, on considère la partie... Alors, la partie verte, c'est la partie dominante pour les temps longs. Et donc, le fait que la résolvante soit uniformément bornée, on peut extraire un projecteur spectral sur la zone verte. Donc, un projecteur, par exemple, pour la zone ici positive et la zone négative. Et donc, un espace, l'image de ce projecteur... que j'appelle IM de P plus ou IM de P moins, c'est un espace de Liebert, un espace fermé. Et grâce à la propriété de transversalité de la direction verticale et les directions stables et instables, on peut montrer, et c'est ça qui est remarquable, c'est que partant de l'espace des fonctions en bas, L2, lorsqu'on fait le tirer en arrière, on arrive dans l'espace des fonctions en haut, mais si on les projette sur cet espace, l'image MP+, on a un opérateur et on peut montrer qu'il est Fredholm, autrement dit qu'il est inversible. Donc on a, modulo un reste de dimension finie, on a une identification entre l'espace L2 en bas et l'espace des résonances de la première bande, soit de fréquence positive, soit de fréquence négative. Voilà, et donc on peut utiliser ça et obtenir la conclusion de la façon suivante. Donc on part de cet opérateur moyenne sphérique, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire le projecteur spectral sur soit la partie positive, soit la partie négative, et obtenir comme ça un L+, et un L-. Ce faisant, on oublie le nombre fini de résonance ici, donc ça fait un opérateur de rang fini, et on oublie tout ce qu'il y a à gauche de gamma 1+, donc ça fait un opérateur qui décroît... très vite en norme L2. Et concernant cette partie, par exemple L+, vous voyez, on a introduit le projecteur spectral, mais comme on l'a dit, ce projecteur avec π0, c'est un opérateur inversible. Donc ici, on introduit B fois B-. Là, on voit apparaître le conjugué du flot géodésique en haut, montré. Donc ça permet comme c'est un opérateur Fredholm, on peut le réaliser en bas, d'accord, et on définit. C'est donc un groupe, et le générateur de ce groupe A, c'est tout simplement le conjugué du champ de vecteur par cet opérateur B, qui est inversible. Voilà, et donc là, on voit apparaître un opérateur résiduel, qui est le W. Okay, donc ça nous donne le résultat, comme ça. Une petite remarque, parce qu'on en a discuté avec Nalini ce matin, ok. Un peu pour mettre en avant ce genre de résultat, c'est que si vous prenez une fonction sur M, sur le cotangent unitaire, que vous pensez à une observable. Okay. Donc on peut définir ce qui s'appelle la quantification de Toeplitz. Donc la quantification de Toeplitz, c'est un opérateur sur L2, vous prenez une fonction en bas, grâce à cet isomorphisme, vous le réalisez, vous le remontez en haut et vous le projetez sur cet espace. Ensuite, vous multipliez par l'observable et hop, vous ramenez tout en bas. D'accord ? Eh bien, observons quelque chose d'extrêmement simple, c'est que en termes de... pour le flot géodésique, vous voyez, on a une propriété de transport évidente, c'est que le push forward composé avec la multiplication par la fonction et le pullback, c'est tout simplement multiplié par la fonction composée par le flot. Ça, c'est évident. Mais maintenant, on peut déduire que si on fait cette conjugaison de hop de A par l'évolution de cette évolution quantique, entre guillemets, eh bien, si on écrit ce que sont les choses, on voit que B et B-1 s'éliminent. Il apparaît le composé de A avec le flot. Okay, donc, on a hop de A renfité. C'est ce qu'on appelle la formule d'Egorov qui est exacte. Mais c'est un peu trivial parce que, par construction, cet espace de Hilbert est invariant par le flot géodésique. Donc, c'est un petit peu ça que...
Et cette, donc, ça, c'est une espèce de nouvelle quantification. C'est ça. Mais et si la fonction A, elle dépend que du point base, hop de A, c'est pas la multiplication par A, c'est ça?
Ah, ben, pas tout à fait, non.
Non, c'est ça. Avec Zeldich, on avait le même phénomène quand on essayait de faire un Egorov exact sur les surfaces hyperboliques. On avait une formule, mais effectivement, si on prenait A qui était juste une fonction de X, on n'obtenait pas un opérateur de multiplication. Donc, il y avait un petit reste après, quoi. Ouais. C'était un peu bizarre.
Cette quantification, elle est faite pour que ça marche, oui. Voilà, donc je vous laisse éventuellement regarder par vous-même les slides qui sont sur ma page web, où je détaille un peu plus la première partie, qui est plus technique, et où, en allant chercher justement les spinners symplectiques dans le cotangent. Et ma dernière slide, voilà, je reviens sur cette image un peu poétique. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait l'état d'équilibre qui domine, mais on allait chercher au-delà les fluctuations autour de l'état d'équilibre, un peu comme vu de loin, la Terre paraît calme, avec un océan bien rond, bien calme. Lorsqu'on regarde de près, bon, l'océan bouge et c'est important pour nous. Okay, et pour autant, ce n'est pas négligeable. Voilà. Et puis, petite aparté physique qu'on a fait, c'est est-ce que la mécanique quantique en physique pourrait émerger d'une dynamique sous-jacente déterministe? Okay, ça peut vous inspirer, j'espère. Merci pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.